Le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 13, et nous allons lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 16 à 26. Au nom de Jésus. Paul se leva, fit un signe de la main et dit, « Gens d'Israël, et vous qui participez au culte rendu à Dieu, écoutez-moi. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos ancêtres. Il a fait grandir ce peuple pendant qu'il vivait à l'étranger, au pays d'Égypte. Puis il l'a fait sortir d'Égypte en agissant avec puissance. Il le supporta pendant environ 40 ans dans le désert. Il détruisit 7 nations dans le pays de Canaan et remit leur territoire à son peuple comme propriété pour 450 ans environ. Après cela, il donna des juges à nos ancêtres jusqu'à l'époque du prophète Samuel. Ensuite, ils demandèrent un roi et Dieu leur donna Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, qui régna pendant 40 ans. Après avoir rejeté Saül, Dieu lui accorda David comme roi. Il déclara à son sujet, « J'ai trouvé David, fils de Jessé. Cet homme correspond à mon désir. Il accomplira tout ce que je veux qu'il fasse. » L'un des descendants de David fut Jésus que Dieu établit comme sauveur pour le peuple d'Israël, ainsi qu'il l'avait promis. Avant que Jésus vienne, Jean avait prêché en appelant tout le peuple d'Israël à changer de comportement et à être baptisé. Au moment où Jean arrivait à la fin de sa vie, il disait « Qui pensez-vous que je suis ? Je ne suis pas celui que vous attendez. Mais écoutez, il vient après moi et je ne suis pas même assez bon pour détacher les sandales de ses pieds. Frères, vous les descendants d'Abraham et vous qui êtes ici pour participer au culte rendu à Dieu, c'est à nous que ce message de salut a été envoyé. Amen. » J'ai trois remarques à souligner dans ce texte. La première, c'est que je me suis permis de faire un autre découpage textuel parce que ce qui était prévu dans le lectionnaire pour aujourd'hui, c'était Actes chapitre 13, versets 22 à 26. Mais il me semble que la compréhension du texte ne serait pas facile si nous ne le lisons pas à partir du verset 16. Donc, c'est pour cela qu'on l'a lu à partir du verset 16. La deuxième remarque, c'est le genre textuel qui, à première vue, ne semble pas trop toucher un aspect spirituel. On ne voit pas quel est l'aspect spirituel dans ce texte. Il ne fait que citer des récits historiques. Israël qui était en Égypte, délivré de l'esclavagisme, ensuite la traversée du désert pendant 40 ans, et par la suite il parle de la période des juges, après la mort de Josué jusqu'à Samuel. Jusque-là, Israël n'avait pas droit. Alors il est dit qu'ils ont demandé un roi, et Dieu a donné le roi Saül. Mais ce roi a été rejeté par Dieu, car Dieu a trouvé un homme selon son cœur. Et c'est à partir de David que la promesse de Dieu s'est mise en place et que c'est par lui et sa descendance que le Messie va venir. En lisant cela, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion dans un récit purement historique comme nous l'avons aujourd'hui ce matin? Pourquoi l'auteur du livre des Actes des Apôtres a fait cet aperçu historique? Quel est l'intérêt? Une sorte de survol historique pour marquer, je crois, qu'avant Israël ne réclamait un roi selon leurs désirs et leurs propres besoins, c'est l'Éternel qui intervenait directement pour eux. C'est l'Éternel qui était leur roi et c'est l'Éternel qui s'occupait d'eux. Mais hélas, cela ne leur a pas suffi. Ils voulaient autre chose, ce peuple. Pourtant, si nous faisons un aperçu de ce qui s'est passé, la sortie de la maison de l'esclavage en Égypte, toutes les nations environnantes, quand ils ont entendu ce que l'Éternel avait fait à l'Égypte, ils avaient tous déjà perdu courage parce que le bruit circulait. Comment Dieu a sauvé son peuple ? Dans le désert, pendant les 40 ans, il est écrit que d'une main forte, d'un bras étendu par une grande terreur, avec des signes et des prodiges, que le Seigneur a mené son peuple. Tellement c'était grandiose qu'il est difficile pour certaines personnes aujourd'hui, qui se disent même biblicistes, des chercheurs contemporains, d'accepter de croire que la traversée du désert existe réellement. On nous a dit que ça fait partie des légendes de la Bible, parce que c'était tellement énorme. Et même chose, lors de la période des juges, ils n'avaient pas droit, ni de chef, mais quand ils étaient en difficulté face aux Philistins, Dieu faisait lever des hommes et des femmes parmi eux pour les sauver de la main de leur oppresseur. Mais voilà les problèmes d'Israël commençaient quand ils ont eu un roi. Et d'ailleurs, d'après l'auteur, l'Éternel a dû rejeter le premier roi qu'ils ont demandé. Déjà, le premier roi a été rejeté de Dieu parce qu'il avait trouvé un homme selon son cœur, dit le texte ici. En d'autres termes, le roi Saül était un roi choisi, mais par défaut. Et la grande différence entre le roi Saül et David, c'est que le premier est un roi souhaité, un roi demandé par le peuple, tandis que David, c'est un roi qui a été donné par Dieu. Et cette idée principale est reprise ici dans le texte sous une image exceptionnelle que je trouve magnifique, une sorte de métaphore entre les œuvres et le don de Dieu, qui a une grosse différence dans leur impact et leur efficacité dans notre foi. Car cette idée est encore reprise et confirmée par la mise en comparaison qui a été faite par Jean-Baptiste lui-même entre lui et le Christ. Vous voyez un peu le parallélisme, David, Saül, Jean-Baptiste et le Christ. Jean-Baptiste représente le baptême de la repentance, c'est-à-dire qu'il faut se confesser et faire quelque chose avant d'être accepté. Tandis que celui qui va venir après lui est plus grand que moi, dit Jean-Baptiste. Et pour marquer encore son infériorité face à Christ, l'élu, ou loin au même modèle de David, celui qui est selon le cœur de Dieu, va venir pour régner. Un peu à l'image des rois d'Israël qui prenaient leur terre et leurs biens pour espérer une protection en retour. Ça, c'est la religion des œuvres. Contrairement à l'Éternel qui était leur roi avant la monarchie, l'Éternel ne demandait rien, mais il prenait soin de son peuple. Et ça, c'est la religion de la grâce. Et voilà deux verbes sortent du lot ici, réclamer et donner. Et je pense qu'à partir de ces deux verbes, deux optiques du christianisme aussi se divisent. Et ça se sent dans notre religion. Est-ce que je prie un Dieu qui réclame quelque chose venant de ma part ? Où est-ce que je prie un Dieu qui donne ? Ça, c'est la question. Tout le point de départ commence par là. Toute ma compréhension de la Bible, toute ma compréhension de ce que Dieu a fait, vient de là. Eh bien, regardons et faisons un bref aperçu de la Bible en général. Que dit-elle ? Elle parle, par exemple, de la création au tout début. Dieu a donné la terre et le ciel pour que l'homme puisse y vivre et puisqu'il règne en abondance. Il va même jusqu'à proposer et donner un choix difficile, très risqué, l'homme mettant l'homme devant lui, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de l'arbre de vie. Dieu donne la liberté. Il savait que l'homme va choisir autre chose. Mais c'est ça notre Dieu. Un Dieu qui ne nous met pas dans une cage et qui nous lie les pieds et les mains. C'est un Dieu qui donne. Ensuite, il a choisi des hommes pour faire alliance avec lui. Abraham, qui est mentionné d'ailleurs dans le texte, et Dieu qui fait alliance avec Abraham. Il donne une terre, une abondance, des descendances à celui qu'il a choisi. Et regardez bien, si vous avez déjà lu l'histoire de l'alliance avec Abraham, c'est Dieu qui a fait alliance avec lui-même. Mais Abraham, lui, au moment de la cérémonie de l'alliance, il a dû s'endormir. Dieu a fait exprès, parce qu'il savait qu'il ne pourra pas tenir sa parole. Donc Dieu donne sa bénédiction à son peuple. Et même la loi, on va prendre la loi, les commandements du Seigneur, où le Seigneur semble, je dirais bien semble, exiger ou réclamer quelque chose. Avant cela, Dieu a donné ses lois à Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont été choisis comme étant nation sainte. Le temple aussi, rappelez-vous, qui a été érigé à Jérusalem, a été donné par l'Éternel pour marquer sa présence parmi son peuple, etc., etc. Jusque dans le Nouveau Testament, qui est encore plus clair, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'image que l'auteur veut véhiculer, je crois, dans ce texte, c'est de montrer, oui, Jésus est le Messie, le roi, mais il n'est pas venu dans ce monde pour être servi, mais pour servir, pour donner sa vie et la vie éternelle. Le verset 26 de notre texte est interpellant, car il dit que ce don vous a été envoyé à vous, mais vous ne l'avez pas accepté. Vous avez refusé ce don de Dieu. Oui, accueillir ou recevoir un don n'est pas du tout facile. Ça semble facile à entendre, mais bibliquement parlant, les gens refusaient systématiquement de se mettre dans cette position de celui qui reçoit. Cela peut signifier pour lui une marque de faiblesse. Quand on accepte un don, il faut accepter qu'on est faible. Et c'est ça qui est difficile pour l'homme, d'admettre qu'il est faible. Il veut croire qu'il maîtrise tout, qu'il contrôle tout. Non, tu es faible. Et cette notion de faiblesse, d'infériorité, est un message que le monde ne veut pas entendre aujourd'hui. Mais quand on est devant le Seigneur, pourquoi on met toujours cette image de prière à genoux? Ce n'est pas juste des gestes, mais pour dire, Seigneur, j'ai rien, j'ai besoin de toi. Ça nous met dans une position inconfortable, je l'avoue. Et je pense que c'est là qui fait la difficulté du message de l'Évangile. Cette conscientisation que je n'ai rien, je suis faible, j'ai besoin d'une intervention de l'extérieur, sinon je m'en sors pas. C'est dégradant pour l'être humain qui veut être autosuffisant. Et cela me fait rappeler une citation de Billy Graham que j'aime bien. Il disait, quand le malade commence à avoir faim, c'est qu'il est sur la voie de la guérison. Il n'est pas encore guéri, mais il est en bonne voie. Et c'est vrai d'ailleurs, quand on remarque, quand le malade commence à avoir faim, c'est bon signe. Et cela aussi dans la vie spirituelle. Au moment où tu n'as plus rien, c'est là que tu cherches le Seigneur. Mais quand tu as encore des choses, tu dis, bon, on verra. Et je crois que c'est aussi le message que Jésus avait adressé à ce jeune richissime que j'avais annoncé dans la liturgie. Il n'a pas compris ce que Jésus lui a dit. Il croyait que, littéralement, il fallait tout vendre ce qu'il avait. Non, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Il n'était pas prêt à recevoir. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà tout. J'ai déjà tout fait cela dans ma jeunesse. C'est quelqu'un qui est riche en lui-même, dans sa façon de pensée. Il est venu vers Jésus avec arrogance et voulant chercher une reconnaissance de sa part. Mais tant qu'il est encore riche dans le sens que nous venons de dire tout à l'heure, qu'il peut encore argumenter, qu'il a encore des choses à dire, nous ne serons jamais dans l'état d'un pauvre qui n'a rien et qui n'attend qu'une seule chose, aie pitié de moi. Étonnamment, ce fut aussi la dernière phrase de Martin Luther avant de mourir sur son lit de mort. « Je ne suis qu'un mendiant. » Et il a fermé les yeux. Drôle de phrase pour quelqu'un qui va mourir. « Je ne suis qu'un mendiant. » Parce que ça résume l'Évangile. Et ce n'est pas par hasard aussi que si vous avez suivi les béatitudes de tout à l'heure, quelle est la première déclaration des béatitudes ? Heureux les pauvres. C'est la première phrase. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen.